en studio Didier François pour son coup d'œil à l'international.
Bonjour Didier François.
Bonjour Sébastien.
On en parle depuis ce matin. Bien sûr, le sommet du G7 s'ouvre demain à Biarritz sous très haute sécurité pour cette réunion des chefs d'État parmi les plus puissants du monde. Mais des chefs d'État qui voient depuis des années leur domination bien très sérieusement remise en cause par l'émergence de nouveaux acteurs internationaux.
Oui, à commencer par les quatre puissances effectivement émergentes qu'on appelle les BRIC. Quand on accole les initiales du Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, géants démographiques aux territoires immenses et aux économies en pleine croissance, qui donc conçoivent naturellement des ambitions stratégiques, mais qui ne seront pas représentées demain à Biarritz, parce que quand Valéry Giscard d'Estaing a eu l'idée en 1975 de former ce club informel des sept plus grandes puissances de la planète pour faire face au premier choc pétrolier, il se trouve que les sept pays les plus riches étaient sept pays occidentaux, alors au sens politique du terme à l'époque, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Canada, qui représentaient le monde dit libre face au monde communiste et au tiers-monde. On était encore en pleine guerre froide. Mais surtout, ces pays, à l'époque, pesaient 62% du produit intérieur brut mondial pour 12% de la population, une position extrêmement hégémonique, mais aujourd'hui très sérieusement écornée, puisque les économies du G7 ne représentent plus que 45% de tous les PIB. C'est un gros recul, avec une Chine qui s'est haussée au deuxième rang de l'économie mondiale, l'Inde au septième, juste derrière la France, le Brésil au neuvième rang, derrière l'Italie, mais devant le Canada, qui est lui-même talonné par la Russie et la Corée du Sud. Les rapports de force, vous le voyez, sont profondément modifié.
Et d'où cette volonté affirmée par Emmanuel Macron de faire évoluer le format de ce G7.
Absolument. Alors c'est d'autant plus indispensable que le seul ciment du G7 dans sa forme actuelle, ce sont ses valeurs a priori communes aux démocraties libérales qu'il compose. Or on voit bien que là aussi, l'effritement est à l'œuvre avec la montée des populismes. Un Donald Trump parfois difficile à suivre, un Boris Johnson empêtré dans le Brexit, un Giuseppe Conte démissionnaire en Italie, Justin Trudeau très affaibli au Canada et Angela Merkel en fin de parcours. Franchement, le contexte est loin d'être facile pour un Emmanuel Macron qui, à la veille du sommet, a défini cet affaiblissement durable de l'hégémonie occidentale comme, je le cite, une crise profonde des démocraties, à la fois en représentativité et en efficacité. Et ce dernier terme est très important parce que, effectivement, c'est ce sentiment d'une incapacité qu'auraient les États à protéger leur population face aux transformations extrêmement rapides du monde contemporain qui nourrit les défiances à l'égard de nos systèmes. D'où cette ambition que porte Emmanuel Macron de développer une diplomatie qui soit plus simplement déclarative ou descriptive, mais une diplomatie à fin action capable de répondre à ce qu'il appelle les peurs contemporaines, la peur climatique, la peur technologique, la peur des migrations, des sujets qui pour être résolus imposent qu'on associe question par question les nouveaux acteurs émergents qui détiennent une part de la solution en Afrique, en Asie, en Amérique latine, et cela quitte à discuter directement de tous ces sujets de crise avec nos adversaires déclarés, comme ce fut le cas au début de la semaine avec Vladimir Poutine, ou comme ça le sera cet après-midi à l'Elysée avec Mohamed Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères.
Merci Didier François, c'était l'édito international et merci pour ces éclairages tout au long de l'été. Didier, on vous retrouve lundi.
Oui.
Et le soir, cette fois, ce sera
changer d'horaire.
Dans le grand journal du soir de Nathalie Lévy. À lundi, Didier.
Sébastien Crêpe.